Salut, c'est Yann pour Crème de la Crème. On va passer une heure ensemble sur Canal B. Enfin, si vous n'avez rien de mieux à faire que d'écouter quelques nouveautés, comme par exemple un extrait du prochain album de Manuel Lainé, échappé du groupe Cannibal, d'écouter un inédit de broadcast, et puis aussi d'entendre et de découvrir peut-être Wonder Horse, Loro et Holiday Ghosts, nos deux albums disques d'or cette semaine, et puis de connaître Gabrielle Selnay, réalisatrice qui a conçu le film court-métrage d'animation La mort du petit cheval, à retrouver pendant le Festival national du film d'animation. Alors, il a déjà été projeté, mais vous pouvez le voir sur Arte, donc tout va bien. La session Info Concert évoquera un concert de From Town to Town le 10 mai, ça sera à la ferme de Quincé, avec Leather Gallery et puis un groupe surprise, Megadisc. Et le 31 mai, on évoquera le concert de Bodega et Ciel à l'Antipode. Qu'ai-je oublié ? Eh bien oui, à Léon Lee, 58e du nom, avec Soisy Global, qui aujourd'hui nous parle du premier tome de la trilogie Ilos par Marion Brunet, paru chez Pocket Jeunesse. On commence directement l'émission maintenant, et bien avec une revenante, ça fait plaisir de réentendre la voix de Trish Kinnan de Broadcast, qui s'est en allée il y a quelques années. On entendra des nouvelles choses du groupe grâce à ses deux albums Spell Blanket, qui sort le 3 mai prochain, et puis Distant Call à la fin de l'été, ou même au début de l'automne, le 28 septembre, pour le label Warp. Deux albums différents, l'un composé d'enregistrements qui n'avaient pas été finalisés, mais qu'on a pu finir quand même. Ça va être le cas pour le titre The Games You Play. Là, c'est une version inédite et vocale d'un morceau instrumental qui était apparu sur une compilation en 2001. Et puis le deuxième disque, lui, eh bien, proposera des démos transformées en production finale. Morceaux qu'on entendait notamment sur Aha Sound et Tender Buttons, de classiques de Broadcast, ou bien The Future Crayon. On commence donc avec Broadcast, The Games You Play. Bonne émission! Stop your love. Manuel Lainé, à l'instant, dans Crème de la Crème, il a laissé son groupe Cannibal pour s'enfermer dans une caverne, d'où sortent quelques singles au fur et à mesure annonçant un album. Premier album solo donc pour Manuel Lainé, le 3 mai prochain pour le label TFT. Le disque Caverne hébergera ce morceau Phobie, dont je ne suis pas tout à fait sûr d'avoir bien compris de quoi il parlait, mais c'était cool. Ouais, c'était cool, j'ai bien aimé ce morceau de Manuel Lainé. On poursuit avec les Anglais de Wonder Horse, groupe flamboyant, comme son nom pourrait l'indiquer d'ailleurs, qui nous vient d'Angleterre, groupe mené par le chanteur Jacob Slater, qui lui a passé pas mal de temps, sur la côte sud-ouest du Royaume-Uni, en tant que moniteur de surf. Ça mène à tout, apparemment, c'est sur le label Communion Records qu'il est sorti ce single le 11 avril dernier. Quant à nous, on écoute immédiatement le titre Midas par Wonder Horse.
The voices of the sea came crawling on the telephone, somewhere between a chessboard and a nursery rhyme. I heard the little snake shaking in his invitation and the whites of his knuckles on the other end of the line. And he fixed me with the coldness of the kingdom in his eyes. Midas,
deux façons différentes de faire sonner ses guitares et de faire du rock'n'roll en 2024 en Angleterre. Wunderhorse tout à l'heure, et puis là, un peu moins flamboyant, un peu plus amusant aussi, un peu plus frais, sans doute. Holiday et Ghosts, pourtant leur cinquième album, Coat of Arms, vous les retrouverez au Pipa la Pop numéro 3, début juin à Rennes, le festival de la soul des Pichikai, et nous on les écoutera sans discontinuer peut-être d'ici là, avec des extraits donc de ce cinquième album. Vous entendiez le titre Sublime Disconnect. On va poursuivre avec celui qui est aussi un disque d'or cette semaine, il y en a deux, celui de Holiday Ghosts et puis celui du brésilien Lauro, déjà installé en Angleterre depuis une petite poignée d'années avec le groupe Wax Machine. Là il est pratiquement en solo aux commandes de Cabana, album tout à fait détendu qui invite à la glande totale, on peut le dire comme ça, on peut dire aussi il appelle le farniente, vous faites comme vous voulez selon votre degré de langage à l'heure qu'il est. Lauro, c'est donc un musicien qui va utiliser quelques souvenirs de la bossa nova des années 1960 et puis les accoquiner avec de la tropicalia. Oui, ça ressemble parfois à des morceaux qu'aurait pu faire Os Mutantes à la fin des années 1960. Parfois, ça ne ressemble pas du tout à ça. Et c'est du surf au ralenti avec ambiance de la jungle intégrée. C'est parfait. C'est un disque d'or, je vous le rappelle. On écoute le morceau qui est le premier single qui annonce ce disque Cabana qui sort à la fin du mois de mai. Le morceau Ande Au Vau, Lauro.
2011.
Spreading through town, they were coming in numbers to tear this place down to the ground. And there they come in their twos and their threes with their guns to the front, so you can't fail to see. Stay now, you've got to carry all you can take. For they're on the uptake. Don't look to me, you've got to carry your own weight. For they're on their way. So we're standing in line with our pots and our pans, and the sink if you can, and the children in your one free hand. And many miles later I've worn out my shoes, so the heels are all blistered and hardened and bruised from the war. Can't stay now, you've got to carry all you can take. For they're on the uptake. Don't look to me, you've got to carry your own weight. They're on their way. And I don't mind the fighting, but all we got are the rocks and the sticks and the stones. But they don't break the bones when they hit. Your voices and stamp out your fires. We'll be sleeping by day and we'll travel on at night. Keep up the good fight. Can't stay now, you've got to carry all you can take. For to me, you've got to carry your own weight. For they're on their way. Don't look to me, you've got to carry your own weight. For
la machine à remonter le son, c'est un petit appareil qui est très pratique quand on aime voyager dans les époques et dans les genres musicaux aussi. C'est une machine qui nous permet de revenir chaque semaine sur une année choisie au hasard entre 1960 et 2024, histoire de découvrir ou redécouvrir des titres plus ou moins oubliés, et puis aussi des classiques intemporels. Vous avez entendu à l'instant l'anglaise Liz Green, le fameux morceau Displacement Song. Elle avait fait deux albums, Liz Green, en 2011, le très beau Oh Devotion, peut-être passé un peu trop inaperçu, même si moi je l'avais vu quand même, Liz Green, dans un très beau concert d'un dimanche au 6x4 de Laval. Elle avait quand même réitéré avec l'album Howl Away en 2014, et puis c'est à peu près tout, on ne l'a pas retrouvé depuis. C'est bien dommage, voix très originale, très 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 personnel. Et puis ambiance un peu cabaret noir d'entre-deux-guerres. Liz Green et la chanson Displacement Song à suivre. La page culture de Crème de la Crème. On s'intéresse à nouveau au Festival National du Film d'Animation qui avait lieu à Rennes depuis le 13 avril et qui se termine ce mercredi 17 avril. Et c'est malheureusement la troisième et dernière fois où on va parler de films d'animation dans Crème de la Crème et dans sa page culture aujourd'hui. Une nouvelle fois avec Gabriel Selnay. Bon, c'est la première fois qu'on la rencontre. Bonjour Gabriel.
Bonjour.
Qui nous propose La mort du petit Fall, du réalisatrice de ce film, un court-métrage étudiant, fin d'études donc, et en compétition hein, dans la catégorie 7, Faire face. Il va s'agir de faire face à quoi ? Bien de faire face à une mère acariâtre, à un futur proprio plutôt envahissant, voire complètement libidineux, et puis faire face à eh bien, la circulation impossible dans Paris, peut-être, sur un vélo, mais comme si on était dans un western. C'est à peu près ça, la mort du petit cheval. Et pourtant, c'est pas la mort du petit cheval, en fait. On a affaire avec ce film en 4 minutes à une tranche de vie où le passé est présent, le futur aussi. On a plus que l'univers qu'on voit dans ces 4 minutes. Et c'est ça qui est assez fou. Est-ce qu'il y a une part d'autobiographie, Gabriel, dans ce film où on voit une maman plutôt pénible, hein, je le disais, et puis une sœur plus délurée quand même, qui va être un peu le modèle de l'héroïne de ce film. Est-ce que ça vient d'une histoire personnelle ?
Les faits en eux-mêmes sont totalement inventés, mais bien sûr, les personnages sont très inspirés de ma propre famille. Et je pense que le but, c'était vraiment de parler des dynamiques plus que des personnes et de créer des situations qui vont pouvoir représenter mes dynamiques familiales et en rigoler le mieux possible. Quoi.
Une scène d'ouverture absolument hilarante, en 3 temps, comme ça. Une mère très très haut dans un escalier qui balance des affaires à sa fille, on le comprend. Parmi les affaires, un animal, et puis l'animal n'est pas forcément celui de qui on croit. Et ça, je le dévoile parce que ça dure très très peu de temps, et on rit 3 fois déjà en 20 secondes. Quoi. Ça, c'était l'idée aussi, un peu comme dans La Cité de la Peur, il faut rire beaucoup dans un film.
Bah, je pense que c'était un peu inconscient, mais au final, ça m'a hyper libérée de rigoler de mes propres problèmes familiaux, des choses qui peuvent être un peu accablantes. Et là, je sortais vraiment de cette période un peu de sortie d'adolescence, où c'est un peu un entre-deux, où on a du mal à s'affirmer, à trouver la place dans la famille. Et du coup, c'était un peu pour mettre une conclusion positive à toute cette période-là, quoi. Et ça m'a aidé d'en rire.
C'est un court-métrage étudiant, ça signifie qu'un cursus qui vient de se terminer ?
Et oui.
Ou qui est en cours seulement.
Non, non, il est terminé, il a été long, donc je suis contente.
Ça s'est passé en plusieurs temps,
oui.
Ça a commencé comment en fait, plonger dans la formation de réalisatrice, animatrice ?
Bah, je pense que la passion de l'animation, enfin, j'ai découvert ça vraiment au lycée, donc très tôt. Et mon but très vite, ça a été d'aller au Gobelin. Je voulais une formation qui soit très carrée, très, très exigeante, ça me rassurait. Donc j'ai fait 4 ans au Gobelin. Et sauf qu'à la fin, j'avais l'impression de pouvoir tout dessiner, mais je savais pas vraiment ce que je voulais dessiner. Les Gobelins, c'est un apprentissage super, mais c'est beaucoup de travail en groupe. Du coup, si on veut un peu développer une patte artistique, c'est pas trop l'endroit. Et du coup, c'est pour ça que j'ai fait La Poudrière, qui est vraiment un lieu où on peut développer son propos en tant que vraiment auteur pendant 2 ans.
On revient un petit peu en arrière avec un autre film, Au revoir Jérôme, qui a été là, un travail en collectivité à plusieurs. Un film que vous pouvez voir d'ailleurs sur Arte, hein, je l'ai vu hier, donc j'espère qu'il est encore en ligne aujourd'hui. Film court aussi, hilarant et en même temps dramatique, parce que quand même il est question de la mort, il est question aussi d'un homme qui cherche sa dulcinée, Marilyn, quelque part au paradis probablement, et qui prend le bottin au début pour savoir où elle est, cette Marilyn. Et puis il n'est pas forcément attendu comme il le pensait, mais tout ça dans un univers très coloré, très psychédélique, très 70s. On a l'impression que vous avez pris de la drogue en fait, toutes les 3, quand vous l'avez fait ce film.
On n'a pas pris de drogue, mais je pense qu'on avait besoin de s'échapper. Et artistiquement, on voulait, c'était la priorité, c'était vraiment de s'amuser graphiquement, de pouvoir tout dessiner. Du coup, bah, le thème du paradis s'est imposé très vite parce que c'est vraiment une libération totale. Le paradis, c'est tout ce qu'on veut, tout ce qui peut être apprécié et aimé. Et bah, du coup, ça a été un prétexte parfait pour dessiner tout ce qu'on apprécie et qu'on aime.
Je vous encourage à le voir, ce film. Et puis après, eh bien, voir donc La mort du petit cheval aussi. Film aussi coloré, finalement. C'est pas les mêmes techniques. On n'est pas dans les années 70. On n'est pas dans l'impression d'être dans un papier peint plein de fleurs de cette époque-là, avec La mort du petit cheval. On a un style très vif, des couleurs vraiment très très flashy, en fait, dans La mort du petit cheval. C'est quoi les techniques que tu as utilisées pour ce film-là?
Alors, j'ai fait les décors, la ligne des décors vraiment sur papier, et après j'ai colorié et animé par-dessus sur ordinateur, mais c'est que de l'animation traditionnelle, donc image par image, à la main.
Quand on voit ce film, on en veut plus, en fait. C'est pas destiné à être le début d'une histoire où on retrouvera ces trois personnes, le chat, et puis des histoires un peu rocambolesques, sérieuses et drôles en même temps.
Bah, c'est pas complètement exclu, mais je pense que le but, c'était pas forcément de poser les bases pour un projet futur, c'était plutôt de jouer avec les contraintes de 4 minutes pour raconter le plus de choses possibles. Et du coup, bah, c'est sûr que on laisse des blancs, on laisse des ellipses, du coup ça fait qu'on peut rester un peu sur sa fin, mais après, pour moi, c'était aussi une manière de conclure une période. Du coup, je suis contente que ce soit ce que c'est, et ça me suffit déjà amplement.
Une question que j'ai posée déjà à Mélusine lundi, hier à Aline et aujourd'hui à Gabriel. Donc, quand on se lance dans ce métier de l'animation, est-ce que le Graal, c'est d'aller vers un long métrage ou finalement, c'est pas grave si on fait des formats plus courts, simplement?
Bah, c'est presque pas comparable. En fait, je pense que quand on veut faire du long, c'est bien d'expérimenter un peu en court-métrage. Mais après, c'est un travail très différent. Le court-métrage, ça amène plus à l'expérimentation. C'est moins long à faire. En animation, un long-métrage, en moyenne, ça met 10 ans entre le moment où on a l'idée et le moment où ça sort au cinéma. Donc, c'est une aventure énorme. Mais après, il y a beaucoup de réalisateurs et de réalisatrices qui aiment le court-métrage pour ce que c'est. Ça donne un rythme différent et ça permet beaucoup plus de liberté.
Petite pause musicale, et bien c'est une sélection de Gabriel. Pourquoi est-ce qu'on entendait ceci et qu'est-ce que c'était d'abord?
Alors c'était Whistling Through the Graveyard de MGMT, qui est je pense mon groupe préféré de tous les temps, et qui est un album un peu moins connu, un live, et c'était une chanson que j'ai écoutée tout le long de l'écriture du film. Et j'aime bien comme ça avoir une playlist de quelques titres qui vont donner en fait le ton au film. Et là, il y a vraiment quelque chose d'assez triste et joyeux en même temps. Et c'est vraiment ça qui a infusé dans le scénario, je pense.
On parle de La mort du petit cheval avec Gabriel Selnay, notre invité, qui a réalisé donc ce film que vous ne pouvez plus voir malheureusement pendant le Festival National du Film d'Animation, mais qui est visible sur Arte. Je l'ai vu aussi hier, donc vous pouvez le voir. Un film qui concourt dans cette compétition numéro 7, Faire Face, compétition de court-métrage étudiant. Faire Face, oui, il s'agit de Faire Face dans La mort du petit cheval. Faire face à une situation un peu compliquée. Qu'est-ce qu'on fait quand on est viré de chez soi? Et puis une autre, qu'est-ce qu'on fait quand on veut trouver un chez soi aussi? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a face à soi un porc, en fait. J'exagère peut-être, mais c'était dès le début de l'écriture de La mort du petit cheval, le fait qu'on irait vers ce moment-là de la rencontre entre la protagoniste et puis son futur proprio, si jamais elle prend l'appart, mais ça, c'est pas sûr.
Bah, en fait, le sujet quand même principal, ça reste la famille, et ça reste ces dynamiques avec sa mère, mais il me fallait en fait quelque chose, une adversité, parce que je voulais montrer qu'est-ce qui se passe dans cette famille quand il y en a une qui va pas bien, et c'est justement là où en fait les dysfonctionnements, ou peut-être aussi les moments de soutien se révèlent. Et du coup, le fait de faire une agression sexuelle qui reste quand même quelque chose d'assez comique, la manière... Enfin, je voulais garder quand même, rester sur un fil comique pour pas que ça prenne toute la place du récit, mais ça me permettait de mettre un moment d'adversité qui va révéler toute leur dynamique entre toutes les trois.
Je ne dévoile pas évidemment ni la chute, ni toutes les péripéties du film, parce qu'il y en a quand même pas mal en 4 minutes quand même, mais tout de même, parlons de cette chevauchée fantastique dans les rues de Paris, si c'est bien Paris. Ça a des allures épiques, vraiment. On croirait qu'on est dans un film de Sergio Leone. La musique est très western, elle aussi. Il y a des sifflements. Ah, tiens, comme dans MGMT tout à l'heure. Ça aussi, c'était un peu pour pimenter l'action, ce moment très très rapide, en quelques 20 secondes peut-être.
Oui, oui. Moi, j'ai toujours adoré de toute façon les western spaghetti, et je pense que aussi, cette période de la vie, c'est une période où on s'affirme et on sort peut-être de son carcan de petite fille sage. Et pour moi, la figure du cow-boy, elle représente justement l'émancipation et le fait de se foutre des règles et sortir de son carcan. Et du coup, j'ai voulu teinter cette séquence de libération avec toutes les références de Western Spaghetti qu'on peut connaître, des musiques à la Ennio Morricone et de Gabriel Mimouni, qui a fait un travail superbe. Et j'ai aussi joué avec des bottes, des sifflements, et je trouve que ça a rajouté aussi du comique dans ce moment un peu dramatique où elle est un peu perdue.
J'imagine, évidemment, avec le temps qu'il faut pour réaliser un film de 4 minutes, que le prochain, il n'est pas encore tout à fait finalisé, c'est sûr, mais il existe déjà, Gabriel, dans ton imagination, le prochain film sur lequel tu vas travailler ?
Oui, j'ai commencé à y réfléchir. Je vais aller en résidence à Cyclique, qui est une résidence en centre-Val de Loire à Vendôme, et qui va me permettre de passer un mois à écrire le prochain film, qui sera moins ancré dans le réel cette fois-ci, mais qui sera encore une histoire de femme, je crois, malheureusement.
Comme encore une fois, le temps est un petit peu le nerf de l'animation. Est-ce qu'on peut se permettre de rester focalisé sur un seul projet, ou est-ce qu'on est parfois obligé d'aller travailler ailleurs, aller voir sur d'autres projets des camarades pour continuer à s'enrichir, en fait?
Bah oui, moi, enfin, je trouve ça très important de mettre aussi ce qu'on a appris au service des autres, et moi j'apprécie beaucoup être technicienne aussi. C'est la chance que j'ai d'avoir pu faire une école Les Gobelins, qui est une école très technique, et aussi La Poudrière, une école artistique. Ça me permet aussi d'alterner et du coup de me nourrir des projets sur lesquels je travaille en tant que simple technicienne, et après de revenir en résidence pour écrire mes propres projets. C'est vraiment un truc qui se nourrit, j'apprends techniquement, je fais reposer aussi les idées, ça c'est indispensable. Et puis même financièrement parlant, c'est important, et c'est vraiment aussi l'intermittence qui permet d'avoir la liberté, donc c'est une chance aussi qu'on a en France.
Ce film est montré ici au Festival National du Film d'Animation à Rennes, il a été montré ailleurs également?
Oui, il sera montré à Stuttgart, il a été montré à Vienne, dans un festival qui s'appelle Tricky Women, et à Roanne aussi, donc il fait un petit parcours, il fait son petit bonhomme de chemin.
Je reviens peut-être pour aller vers la fin de la discussion avec Gabriel Senney. Les copines avec lesquelles tu as fait Au revoir Jérôme.
Les copains.
vous avez envie de continuer ou de retravailler ensemble? Vous le faites déjà? Comment ça s'est passé finalement? Parce que ça sanctionne une fin d'étude, ce film-là. J'imagine que ce n'est pas la fin des rencontres et du travail en commun.
Je pense qu'après, on a été tous un peu pris par nos propre cheminement et du coup c'est pas prévu qu'on retravaille ensemble, mais après moi je suis amenée à travailler avec Adam du coup qui est Adam Sillard qui est une des trois personnes mais justement sur des projets sur lesquels on est tous les deux techniciens dans le même studio, mais après c'était pas forcément une collaboration de longue date.
Au moment où on discute ensemble avec Gabriel, on ne sait pas quel est le palmarès de cette compétition numéro 7. Il y a un suspense dingue, évidemment. C'est pas les Oscars non plus, on est d'accord, le Festival National du Film d'Animation. Mais tu sais si tu vas célébrer, si tu es la gagnante de ce prix-là?
Je sais pas. Je verrai à 19h, mais en tout cas, je serai là pour voir qui a gagné. En tout cas, il y a la fête après, donc ça, je vais la faire, quoi qu'il arrive.
Et si jamais tu gagnes, tu appelles d'abord ta mère ou ta sœur ou...
Je ferai un appel groupé.
Merci beaucoup Gabriel. Le film La mort du petit cheval donc, et puis le précédent c'était Au revoir Jérôme, à retrouver sur Arte, et puis à voir si vous êtes à la soirée de la fin de compétition numéro 7 des courts-métrages étudiants, ce sera projeté à Rennes. Merci beaucoup.
Merci.
Et on termine avec encore MGMT qui vont continuer à siffler à travers le cimetière. Merci à Gabriel Selnay pour cette découverte en ce qui me concerne de ce titre de MGMT, Whistling Through the Graveyard, une sorte de western contemporain très très chouette à suivre. Allez, on lit 58e du nom avec Soisig Le Bail.
Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soisig Le Bail sur Canal B.
Dans Crème de la Crème, aujourd'hui, puisque c'est mercredi, nous retrouvons Soisig Le Bail. Bonjour Soisig.
Bonjour Yann.
Qui va nous parler aujourd'hui de Ilos par Marion Brunet. On est dans Allez, on lit, et donc c'est plutôt jeunesse, mais qui veut lit évidemment. Et c'est paru aux éditions PKJ.
Marseille 2052. Ah, la ville a bien changé au fil des ans. 8 tsunamis ont bouleversé l'architecture de la ville. La montée des eaux a englouti une partie de la ville, fragilisant toute la zone et provoquant l'exode d'une bonne partie des Marseillais plus au nord. C'est pas la seule ville affectée, hein. New York a été engloutie et d'autres villes côtières, du nord au sud, le monde a changé. Le climat est de plus en plus rude, les étés étouffants, 50 degrés tous les jours. Les tsunamis sont brutaux, déferlent sans quasiment prévenir. Alors, les Marseillais ont juste le temps de quitter leurs maisons, immeubles et appartements pour se réfugier en hauteur. Ils laissent tout derrière eux. Et ce n'est pas perdu pour tout le monde. Des collectionneurs cherchent des objets précieux abandonnés sous l'eau. Alors, des plongeurs descendent explorer les fonds marins pour dénicher ce qui se vendra très cher. Plus encore que jadis, la société est divisée entre les ultra-riches, les UR, qui continuent de vivre comme avant dans leurs villas climatisées sur les hauteurs de la ville. Ainsi, le Commodore, personnage puissant aux activités tentaculaires qui règne sur Marseille. Nolan et son frère, Gal, deux adolescents orphelins, leurs parents sont morts lors du 5e tsunami, plongent en apnée pour dénicher des objets rares dans les villas immergées, les revendre et gagner de quoi vivre. Ils sont d'excellents plongeurs, mais ce métier n'est pas sans risque. Courants violents, animaux prédateurs, algues toxiques, eau polluée rendent ces plongées dangereuses. Lorsque le Commodore passe commande pour récupérer un objet précieux, malgré le danger, Gal n'hésite pas et plonge. Il va bien gagner cette fois-là. Oui, mais il ne remontera pas. Et Nolan, bouleversé par la mort de son frère, entre au service du Commodore pour organiser sa vengeance. Elle est aussi aguerrie que son frère. Mais tout d'abord, le Commodore lui demande de veiller sur Bonnie, une jeune nageuse qui se prépare pour les Jeux Olympiques qu'il sponsorise. Dans la villa somptueuse où il vit, vit aussi Enoch, neveu du Mania, qui supporte mal l'autoritarisme de son oncle tout en profitant quand même de la vue luxueuse qu'on lui offre. Les trois jeunes gens deviennent amis, soudés par la révolte contre la puissance de l'homme d'affaires douteux. Un peu au large, il y a l'île de Monte Cristo, refuge des plus pauvres, des exilés et des migrants qui rêvent d'une vie meilleure. Sur le continent, on ne voit pas d'un bon œil ces arrivants qui fuient des pays encore plus désolés. Là, Nina vit avec son père et son frère. Ils sont accueillants et tentent de protéger les nouveaux venus. Les Jeux Olympiques arrivent. La ville est quadrillée par la police et l'armée. Des renforts surveillent les côtes. Le ministre de l'Intérieur s'installe chez son ami le Commodore. C'est le moment d'agir. Alors que la rumeur du projet secret ILOS, élaboré par les puissants du pays, menace les Marseillais. Premier volume d'une trilogie, ce roman d'action se déroule de manière quasi cinématographique. Il aborde des thématiques très actuelles, vous aurez remarqué. Lutte des classes, changement climatique, refus des migrants, fermeture des frontières et fossé accentué entre les UR et le reste de la population. La classe moyenne a disparu. Mais aussi, solidarité, amitié et prise de conscience des jeunes protagonistes qu'il faut changer les règles. Marion Brunet a du talent et ses romans jeunesse ne se ressemblent pas. Western, navigation mouvementée et ici, roman urbain. À chaque fois, elle écrit juste et fort.
Le premier tome donc de ILOS.
Trilogie. On attend la deuxième. Il va falloir attendre quelques mois, je pense.
Sans doute, sans doute. Marion Brunet aux éditions Pocket Jeunesse. Merci. Sois-y qu'on te retrouve et bientôt, bientôt, très bientôt dans Crème de la Crème. À bientôt.
À bientôt.
Allez, on lit les chroniques littérature jeunesse par Soisig Le Bay sur Canal B.
Soisig Le Bay nous a parlé d'une trilogie qui débute à Marseille avec ILOS de Marion Brunet. Probable qu'elle continuera à Marseille, ça tombe bien. On écoutait Les Marseillais de Chinese Man avec ce titre Where I Go. La présence de General Electric hein, sur ce morceau aussi. Vous entendiez ce titre en illustration donc de la chronique Allez on lit numéro 58. On retrouve bientôt Soisig Le Bay un mercredi comme d'habitude dans Crème de la Crème. Dans la session info-concert du jour, nous irons à la ferme de Quincé. En tout cas, j'évoquerai un concert qui vous permettra peut-être de vous y rendre pour la Psych Session numéro 49 de la Sorénaise From Town to Town avec The Leather Gallery et Megadisc. Et puis, je parlerai aussi d'un concert à l'Antipode le 31 mai où vous retrouverez les New-Yorkais de Bodega, New-Yorkais et New-Yorkaises de Bodega, et puis le groupe Ciel. On commence directement avec les turbulents Leather Gallery. Vos prenait certes, mais avec quelques origines anglo-saxonnes et une culture anglo-française, un mélange punk, noise, rock'n'roll, très très énergique à voir en live absolument. On les connaît bien, les Leather Gallery, on les écoute à nouveau avec ce morceau Sit In, que probablement ils joueront le vendredi 10 mai à la ferme de Quincé pour cette Psych Session numéro 49 de l'assaut From Town to Town.
In a rather strange predicament, unsure of my whereabouts, sweat dripping through my pores. I was the oblivious, rage-filled recipient of a sudden and unnerving abstraction of thought. I'm coming in from that eastern wind, cutting out the western tongue. There's blood on my pale, heaving skin. I'm like a dying animal under the desert sun. Now just sit around, just sit around, just sit around until I can't no more. I'll just sit around, just sit around and just wait for it all to happen. Just wait for it all to happen. Such is the banality of every detail that I observe, until I know it's the patient grin of indecent decay. Life becomes mortality, straight line ceases to curve. Why must I endure every fucking word you say? Behold my naked bloody skull, courtesy of the X-ray scanner. Truths untold, the day remains dull, as I aimlessly search for my virtual planet. Now just sit around, until I can't no more. I'll just sit around, and just wait for it to happen.
The Leather Gallery à l'instant et le titre Sit-In, vous les retrouverez pour la Psych Session numéro 49 de From Town to Town à la ferme de Quincé le vendredi 10 mai. On poursuit à l'antipode avec un groupe qui nous avait été apporté sur un plateau par les transmusicales. On avait bien aimé découvrir le groupe Bodega de New York, un groupe qui emprunte un petit peu aux Talking Heads, un petit peu à LCD Sound System et qui aime à vraiment faire des critiques très très acides de l'univers contemporain, de la société marchande notamment, et on les a suivis de près, de loin peut-être, mais même s'il n'est pas forcément leur meilleur album, leur dernier disque en date, on y trouve de très belles choses, notamment ce Cultural Consumer 3. Il y a trois versions du même titre, alors c'est pas vraiment le même titre, mais ils portent le même nom, ces morceaux-là. On les écoute, Bodega, à voir le 31 mai à l'Antipode, avec aussi Ciel. We'll be right back. À l'instant, les Bodegas de New York qui seront à Rennes le 31 mai dans un concert à l'Antipode où vous retrouverez aussi un groupe shoegaze qui a des ambiances aussi pop alternative, dream pop. C'est un peu trop lisse par moment, je trouve, pour un groupe shoegaze. Ça, voilà, ça, y a pas assez de distorsion peut-être, je sais pas. On verra si en live c'est plus réussi. La musique de Ciel qu'on va écouter maintenant, tout de même avec le morceau Pictures. Retrouvez-les, Ciel et Bodega à l'Antipode le 31 mai. Et retrouvez Crème de la Crème sur canalb.fr, évidemment. Retrouvez-y playlist et réécoute. Et puis nous, on se donne rendez-vous à jeudi pour une nouvelle émission Crème de la Crème. À bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao.
It is bittersweet and last 4 weeks now.